tout de suite sur France Culture, du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonna Bolivier, l'heure du documentaire. En canoë, en pédalo ou seul au boulot, en randonnée, dans une chaise longue à la pêche à pied, en escalade pour les moissons, au bain de soleil, en tricotant, tranquille dans la ville ou perdu dans la foule, cette heure est pour vous. 53 minutes, choisies dans 10 années de Sur les docks, un thème et 4 épisodes pour faire vagabonder ses pensées et prendre les chemins de traverse. Cette semaine, vivre avec l'amour. Et aujourd'hui, l'amour IKEA, petites histoires à monter soi-même, un documentaire d'Aurélie Dian réalisé par Guillaume Baldi. Bon, d'accord, le grand amour, tout ça, on voit bien de quoi il s'agit. Mais il y a 1000 petites nuances, 1000 petits bricolages, 1000 petites zones d'ombre, des ajustements, des aveuglements, des tentatives discrètes ou audacieuses, le petit amour, l'amourette, l'amour sans lendemain, l'amour qui n'en est pas, l'amour déçu, l'amour toujours, l'amour fou, le mariage de raison, le mauvais plan, l'amour moribond, l'amour qui ronronne, celui qui rassure, celui qui fait peur, l'amour passion, quand on hurle en fracassant des assiettes, l'amour navrant, le polyamour aussi, mais si, les amours déçus, mortes ou cuites, le souvenir de belles et délicieuses amours, des amours intéressés, des amours simples, d'autres compliqués, des amours toujours, le fameux amour qui fait mal et celui à côté duquel il ne faudrait pas passer. Mais pour tout ça, on est armé de son seul petit cœur palpitant et pas l'ombre d'un début de mode d'emploi. Alors, dernier volet, on peut apprendre en écoutant les autres.
Elle m'a dit, je vous donne mon lit, comme première nuit, ça ne m'arrangeait pas du tout. Mais en fait, je voulais lui faire plaisir, j'ai dit bon d'accord, mais j'ai eu un coup de sommeil et je me suis endormie. Et ça s'est passé le lendemain dans un grand... Ah oui, on m'avait offert la première nuit dans un grand hôtel, oui, dans un grand hôtel, un des plus grands.
L'amour IKEA, Aurélie Dian, Guillaume Baldi.
L'amour est un coup monté, un coup à monter, un coup à se monter la tête, ou plutôt à se la démonter, à se dévisser le cou, à se chagriner la peau, à se désarticuler la langue. Mettons qu'il en va de l'amour comme d'un kit IKEA. Moins de chansonnettes, plus de travaux pratiques. Le mode d'emploi reste laconique, d'ailleurs généralement on l'a perdu, la notice explicative. On n'a plus le dessin ni la méthode en mémoire, faudra les réinventer soi-même. On a juste retenu qu'il valait mieux être deux au montage, que c'est plus ludique et moins casse-gueule. Voir que ça pourrait tenir, si l'on n'est point trop bégueule sur l'épineux problème de la marchandise qu'on nous vend. L'amour, on reste sceptique devant son papier peint, couleur crème et bonbonnière, ses bluettes fantastiques et sa mythologie de nain de jardin. Fidélité, éternité, milliers de roses, lit de bonheur. Admettons que l'amour est un kit IKEA, donc possiblement tenable, possiblement tentant. Ça pourrait matcher, se combiner, bien se goupiller, si les outils sont là, si l'on désire s'en saisir et en faire usage à l'instinct, sans être trop regardant sur la quantité. Faut y aller au toucher, une affaire de tact, de poudre aux yeux ou de poutre dans l'oculaire. Qu'on s'engage un peu plus avant dans l'opération montage. On se roule une pelle, on dresse une planche. On s'emboîte plus de 10 minutes, on assemble tenon et mortaise. Tiens, je rêve ou ça tient ? On s'arrange pour que ça fonctionne, que ça dure matériellement. On se complaît dans notre bonheur tout neuf, on accède aux rainures poussiéreuses, hop, briquet d'un coupe-chiffon. On admire les défauts de construction chez l'un et l'autre, on échafaude des compromis, on se tient des promesses fulgurantes, précaires et réaménageables. C'est l'avantage du kit. On contractualise à tous les niveaux. On range des volumes de non-dits dans le fond, là où la main caressante découvre de ces échardes qui font saillie dans le bois brut, mal poli. Pas grave, on masquera l'ensemble derrière la belle ouvrage. On n'y verra que du feu. Ça pourrait fonctionner s'il n'y avait pas cette fissure dans la planche, cette usure du modèle, si l'étagère ne se mettait pas à grincer, à force de supporter des poids lourds de silence, des incompatibilités ineffables, quoique indélébiles. Ça pourrait durer, à condition que chacun tienne solidement de son côté quand vient le moment de rajuster les pièces, à condition de soutenir la charpente prête à se déboîter au moindre relâchement, de retenir les vis récalcitrantes au contact du bois devenu si friable avec le temps. Il est peut-être temps d'investir dans l'armature métallique, se dit-on. On rêve d'une étagère en inox inoxydable. à condition d'installer délicatement sur les appuis fraîchement reposés des planchettes qui semblent tout à coup provenir de l'atelier Christo de Baccarat. Baccarat, les Vosges, ça sent le sapin. Ikea nous aurait menti. Il est où le modèle en chaîne indéracinable? Chérie, où as-tu mis la facture? Non, parce qu'elle nous aura coûté la peau des fesses et bien des efforts, ton étagère. Mon étagère? Oui, ton. Non, ton. Le ton monte. Lâche-moi. Quelque chose vient de tomber sur les lames de ton plancher. Je te quitte. Moi non plus. Qu'est-ce qu'on fait des planches dématées sur le parquet flottant?
Oui, oui, on voulait regarder des photos.
Si tu veux.
Tu veux regarder?
Tu as le portable?
Ouais. Je les mets là.
Oui. Et ben voilà. Mais par contre, je ne pourrais pas le commenter hein, parce que je ne sais plus où c'était.
Mais tu peux lire les légendes?
Oui, ça c'est 25 ans de mariage. Mais regardez-le vous, parce que moi je connais. Voilà.
Le jeune homme avec la fine moustache.
Oui. J'avais de beaux cheveux, là. Ah oui, alors là, il y a des inscriptions. Elle était belle, il était beau. Mais ça, c'est comique. C'est le mari de ma fille qui ironisait un peu.
Le mari de ta sœur.
Je l'aimais beaucoup, on s'entendait bien. Cherchait-elle à se cacher, parce que je suis derrière un pilier. Inutile, il a l'œil sûr. Parce que, vous savez, il y a des barres où on peut tirer.
À la carabine.
À la carabine. Qu'est-ce que tu veux savoir?
Tu peux nous décrire la robe que tu portais le soir du Lido?
Oui, parfaitement. C'était une robe brodée parce que ma sœur était chez une couturière très très sélecte et j'avais fait faire une robe noire et avec des broderies, un col avec broderie et puis le bas de la robe était justement brodé et large. Ça me convenait parce que quand je dansais, ça faisait des ronds.
C'était une robe qui tourne?
Oui, qui tourne, exactement.
Et lui, Jean, il était habillé comment? Tu te souviens?
Si, très simple, très bien, très très bien, mais simplement.
Tu te souviens pas ce qu'il portait exactement?
Non, je peux pas dire. Mais c'était certainement un costume noir à l'époque. Les hommes s'habillaient beaucoup en noir, et puis une chemise blanche. C'est certainement ça.
Et l'endroit, tu te souviens? Comment c'était, le Lido?
Oh, c'était une salle assez grande, et je peux te dire où je m'étais installée.
Ouais, dis-moi.
Oui, alors moi c'était... J'avais choisi le Lido parce que c'était sélect. Je voulais pas aller danser n'importe où. Et bien sûr, avec la ferme intention de rencontrer quelqu'un, c'est évident. Et j'avais choisi une place à l'entrée du Lido, me disant, tiens, je peux choisir les personnes qui rentrent, les jeunes gens. Bon, c'était un peu ça à l'époque, on rigolait entre nous. Alors je regardais, puis il y avait justement un jeune homme très beau, galant, qui était bien, qui est entré, et il m'a observé, il m'a souri. Moi, j'ai forcé le sourire aussi, peut-être et certainement, parce que j'ai vu qu'il était bien. Et puis, il est venu, il a fait un peu le tour de d'où il était, et puis il est venu me demander à danser. Et c'est là où on est entré en piste, et il m'a... Alors, intérieurement, je me disais, bon, pourvu qu'il continue, parce qu'il pouvait très bien inviter d'autres personnes. Alors, intérieurement, je me disais, qu'est-ce que je peux bien faire pour le retenir? Bon, je souriais, je faisais... Et puis, il ne m'a pas quitté. Il a dansé tout le temps avec moi. Et au bout d'un moment, il me dit, écoutez, moi, j'avais peur. Je me suis dit, bon, il va partir. Et puis, après, c'est fini. Et je l'aimais bien, déjà, comme genre, très, très bien. Très, très distingué, très... je l'aimais bien. Et puis, il m'a dit, vous prendrez bien un portoflip avec moi. J'ignorais ce que c'était le portoflip, mais je n'ai pas voulu lui dire.
C'est quoi, alors, un portoflip?
Ben c'est de l'alcool. Et d'ailleurs, je n'ai pas pu le boire parce qu'on ne buvait jamais d'alcool. Alors, à peine j'étais contente de connaître ce portoflip. Et à peine j'ai posé mes lèvres que, discrètement, je l'ai déposé sans rien dire, sans faire de remarques. Et là, quand c'était l'heure de se retirer, 7 heures, parce que c'était, on appelait ça du 5 à 7.
D'accord.
C'était les dancings de 5 à 7. Mais après 7 heures, C'était presque des voyous qui allaient même au Lido, puisqu'ils avaient de l'argent à dépenser. Ils choisissaient les endroits où ils pouvaient rencontrer des jeunes filles.
C'était les après-midi dansants, les 5 à 7.
Voilà, c'était sérieux.
Parce que tu sais ce que c'est maintenant, les 5 à 7 ?
Non.
C'est des plans avec des hommes mariés dans des hôtels ?
Non.
Si ?
Oh là là,
c'est
mon Dieu.
C'est des amours à 8 heures maintenant, les 5 à 7.
Ah oui, non, c'était pas ça.
Tu te souviens, c'était quand j'avais rencontré cette fille là. Bon. Non, mais cela dit, c'est vrai que c'était une expérience assez curieuse parce que c'était vraiment une espèce de degré zéro du fiasco en fait. Puisque c'était une jeune fille qui était avec moi. C'est un moment où j'étais un peu fébrile, quoi. Et on était en bas, on est descendu ensemble dans la cave. Et on voit cette brune, hein.
Elle est donc brune,
marocaine. Enfin, ça, je l'ai su après. Et je dis, elle est incroyable cette fille, je peux pas partir sans lui. Sans
elle est
parler.
Trop belle.
Elle est trop.
Elle est trop trop belle.
avec évidemment le débit aviné qui devait aller avec.
Avec les répétitions.
Elle est trop belle. Elle est vraiment trop belle. Et donc voilà, bon, avec ma diction balbutiante. Et là, la jeune fille qui m'accompagnait prend les devants, sans que je lui ai rien demandé évidemment, de la manière la plus cavalière qui soit. Et va choper le numéro de la fille, quoi. Et donc j'étais complètement tétanisé, incapable de faire quoi que ce soit en début de soirée. Et puis l'alcool aidant, évidemment, sur le coup de 5h du matin, je lui envoie un texto complètement lamentable, dont je me souviens plus exactement de la teneur, mais qui devait dire à peu près « t'es trop trop belle ». Et en parlant après, rétrospectivement, avec des amis, et parlant surtout du blocage qu'avait donné... cette possibilité de n'écrire qu'à 5h du matin et absolument pas d'aller parler avant à la jeune fille alors qu'elle aurait pu éventuellement être un petit peu plus réceptive. L'ami à qui je racontais ça m'a dit « Toi, de toute façon, tu es sentimental en fin de nuit. » Tu sais, tu m'as déjà entendu faire ça, je crois. Des fois, dans les soirées, je fais « Bah alors ?» à une fille qui passe. Et c'est ce côté, c'est « Pourquoi à des moments, tu peux dire « Bah alors ?» Et à d'autres moments, c'est juste pas possible. Tu vois ?
Ça va, tu vas bien ?
Est-ce qu'il y a une toujours si on reste dans cette idée de kit IKEA, est-ce qu'il y a un ordre pour faire les choses, une chronologie à respecter entre parler, embrasser, coucher, par exemple ?
Moi, je pense que d'abord, c'est un jeu de mots, l'amour. C'est-à-dire que jeu de mots, pas au sens, le mot jeu de mots balourd, le calembour. C'est jeu de mots au sens où c'est d'abord un échange de discours et avec le regard. Donc, ce jeu de séduction, ce fameux jeu de séduction, tu portes un masque et au fur et à mesure, ce masque commence à se dissiper. Et là où ça devient concret, finalement, l'amour, c'est que quand les masques tombent un petit peu, je pense. Enfin, où tu as révélé des choses qui n'étaient pas révélées auparavant, où tu restais dans un jeu où tu n'es pas forcément toi-même. Alors, qu'est-ce que soi-même ? Est-ce que ça existe ? Est-ce qu'on se ment pas en permanence ? Ça, j'en sais rien. Mais je pense qu'effectivement, d'abord, ça passe par le discours. Après, effectivement, par s'embrasser et coucher ensemble. Et là, tu vois si ça peut fonctionner. Effectivement, il peut y avoir de mauvaises surprises dans un lit. Et donc là, dans ces cas-là, bah, tu te dis, bon, est-ce que ça vaut le coup de rester avec cette...
de manière... cette planche pourrie ?
Oui, je pense que ça passe par ça, par une bonne entente au début. Hein. C'est pour ça que je parlais de coup monté, au sens où, au départ, c'est un coup. Un mec, tu le vois, tu le repères, tu as envie de coucher avec lui, tu ne sais pas ce qui va forcément en advenir. Tu sais pas si... Je ne crois pas à cette mythologie du « ce fut une apparition » et « bing, je suis amoureuse ». Il faut avoir une disposition mentale de liberté et de générosité au dehors, quoi, tu vois. Ne pas insulter le possible, comme on disait, quoi. Mais c'est ça.
On dirait qu'il y a un réglage à trouver entre le laisser faire et le vouloir faire.
Alors, le laisser faire, je pense, c'est tomber amoureux, et le vouloir faire, c'est être en couple. C'est-à-dire que pour être en couple, il faut être un peu volontariste, si tu veux. Il faut, à un moment donné, le jeu du désir qui préside à la rencontre va céder petit à petit à l'idée d'effort, à de s'engager, de faire des compromis. Et ça, c'est pas forcément évident, tu vois. Et entre le fait de tomber amoureux et donc, du coup, pas trop savoir, d'être dans quelque chose d'assez flottant où tu sais pas trop ce que ça va devenir et t'es dans un état de pamoison et voilà, et tu poses plein de questions. Et le fait de vouloir monter un couple, là, c'est différent. Je pense que la démarche, elle exige effort. Et donc, du coup, est-ce que tout le monde en est capable ?
Alors, fais gaffe aux escaliers, ils sont un peu traîtres. Ils sont très serrés. Ouais, ça m'est arrivé des fois de les sentir sur les épaules, quoi. C'est Jimmy. En fait, c'est lui le boss, quoi. C'est lui là. C'est à la fois le serveur et l'homme qui connaît tout ici. Bon, alors là, on arrive très très mal parce que, évidemment, il y a la musique la plus horrible qu'on peut trouver.
Et puis, il se retrouve avec cette position que j'appelle goguenarde. Bon, ma théorie vient d'un soir où j'étais éventuellement un peu sentimental, hein, quand même. Mais c'est vrai que j'avais eu plusieurs aventures avec des filles de 30 ans qui se retrouvaient à peu près dans la 30 ans ou alentour, hein. Ça peut être 28, 29 ou 32. Mais en fait, guère moins et éventuellement un tout petit peu plus. Et qui étaient à peu près toutes dans la même situation. C'était des filles qui avaient connu des amours assez longs, des histoires importantes. Tu vois, type la nana. Tu vois, par exemple, elles ont rompu il y a 6 mois, elles ont mis quelques mois à s'en remettre. Bon, d'autres mettent vachement moins, hein, mais ouais, c'est encore un autre problème. Mettons, tu les rencontres toi à ce moment-là. Elles ont ce côté... Moi, je suis un grand romantique. Je joue une espèce de jeu de l'amour, comme ça. Des fois, ça excède vachement ce que je pense, hein. Et puis, des fois, c'est l'inverse. C'est ce que je pense, c'est vachement excédé par ce qui se passe. Mais le...
Donc, elles ont ce côté...
Elles ont ce côté... Ça va, quoi. Non, mais ton côté, t'es amoureux, ça va, tu vas pas me le faire, on a déjà fait. J'étais avec un mec qui m'a déjà tout fait, tu vois. Donc, là, maintenant, ce que je veux, c'est un truc un peu... cadré, régulier, avec un mec sérieux qui me raconte pas de baratin et qui est prêt à assumer mes week-ends en province. Bah quoi ?
Donc ça, c'est la fille de 29 ans, goguenarde.
Et alors, non, jusque-là, elle n'est pas goguenarde. Ce qui la rend goguenarde, c'est quand toi, tu arrives avec cette espèce de lyrisme qui te caractérise, qui est assez ténue, en fait, qui est simplement une espèce de manière d'engager une conversation qui doit mener à la relation, ou ce qu'on appelle comme ça, et qui est presque juste une posture, une manière d'être avec l'autre. Et la fille te dit, hey, non, ça va, tu vois, on me l'a déjà fait, je t'assure, tu peux faire l'économie de tout ça. Et en fait, c'est hyper castrateur. Parce que toi, si t'as pas cette espèce de projection un peu fantasmée du « Ok, je vais faire l'amoureux, même si j'y crois moyen, parce que c'est comme ça qu'il faut le faire », c'est très décevant, quoi. Et en fait, là où est la goguenardise, c'est que je me rends compte qu'il y a des filles qui se satisfont de cette déceptivité, qui moi me stresse, en fait, quoi. Enfin, j'ai pas envie de vivre un amour dès le début un peu déceptif. Genre, toi, je sais à peu près comment ça va être comme ci et comme ça, et j'ai envie vraiment que la relation avance sa propre logique. Moi, j'ai envie qu'une fille de 30 ans que je rencontre maintenant me fasse croire que je suis le premier, même si je sais qu'il y en a 17 avant. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au début, tu joues ce jeu. Genre, ah, tiens, je vais faire l'amoureux. Et puis après, des fois, comme on est un peu con, on se laisse prendre. Tu vois ? Et finalement, après, on ne joue plus. Après, on dépasse vachement ce jeu-là. Et après, évidemment, tout notre langage amoureux se déploie malgré nous et à notre corps défendant, quoi. Moi, quand je suis amoureux, j'ai dit des trucs horribles à des filles, tu vois.
Par exemple ?
Par exemple, je t'aime, tu vois. Enfin, des trucs complètement fous, quoi.
Moi, je t'aime. Chaud comme la braise, elle c'était un glaçon. C'était comme verser du lait fraise dans un verre de Saint-Émilion.
Je me souviens que tu m'avais parlé d'un endroit, je ne sais plus où c'était, où les filles et les garçons venaient. Ça s'appelait Faire le boulevard. Tu m'avais dit que...
C'est juste. Oui, oui.
Tu peux nous raconter ça ?
C'était une. Encore, on le fait, paraît-il, dans certaines villes du sud. En été, c'est surtout en été, hein, même il n'y a pas beaucoup d'hiver en Algérie ou en Afrique, si tu veux. Non, le soir, vers 7 heures, lorsque les jeunes sortent de leur travail, on se rencontrait tous dehors. Mais on n'avait pas où bavarder. Alors on allait dans une grande avenue qui s'appelait le boulevard, le grand boulevard. Et là, tout le monde, mais jeunes, moins jeunes, mais surtout des jeunes, pour rencontrer des jeunes filles. Mais c'était très sain. C'est vrai. On se donnait à peine le bras, garçons et filles, parce qu'ils étaient très sévères là-bas. Parce que les personnes âgées aussi sortaient. Elles étaient valides. Hein. Mais tout le monde, on se fréquentait. Mais j'ai entendu dire qu'encore, à ce moment, dans certaines villes, ça se passe comme ça. Alors, on est tous très sympathiques quand il fait beau. Tout le monde se font des allers-retours sur un grand boulevard. Alors, évidemment, les jeunes filles, ce qu'elles font, elles cherchent du regard s'il y a un garçon qui leur plaît. Et en faisant attention, tout doucement, on s'approche.
Tu veux dire que ça finit pas dans les buissons?
Non, non, ça n'existait pas, ça. Parce que tout de suite, il y avait les ragots. Alors, on se méfiait un peu. Non, on se méfiait. Non, et puis moi, avec ma pensée, je savais très bien ce que je voulais. Et ce que je voulais, je n'aurais pas épousé n'importe qui.
Ah ben non, on ne va pas casser pas les verres. Ça ne va pas le faire.
Je vais vous en raconter une autre, l'ambiance sentimentale en fin de nuit, qui est une de mes préférées. Un jour, dans une cave voisine, sur le coup de 4 heures du matin, justement, j'étais accoudé au comptoir, dans ma position naturelle, comme ça. Et une fille vient me voir et me dit « Viens, on va danser ». Il y avait une vague piste de danse ou quelque chose qui ressemble à ça, enfin un espace quoi, à côté. Et dans mon souvenir, pour parler de tout ce qui est clair dans ma tête, on est le lendemain matin vers 10h et je me réveille chez moi, tout ça, avec cette fille à côté. Et en fait, il se passe un début de journée hyper agréable, une fille très belle brune. Et donc on discute, on se met à discuter. Comme ça, discuter, elle me raconte un peu sa vie, comme ça. Je lui fais un café, je reviens me coucher, tout ça, bon, bref. Et on bavarde et tout, et en fait, elle me plaisait beaucoup, quoi. Déjà, physiquement, c'est hyper mon type et tout, bref. Et à un moment, elle commence quand même à m'expliquer qu'elle a déjà 2 enfants, qu'elle a quelques années plus que moi, pas non plus énormément, mais quelques. Ce qui en soi m'effraie pas du tout. Et en fait, j'étais complètement dans le truc, moi, et je me disais, bon. En fait, super. Cette fille, il y a des enfants, donc déjà, elle fera pas chier. Elle veut pas en faire, quoi. C'est un truc bien pour moi. Ce côté-là est réglé. Le parent des enfants s'était barré vivre à Clermont-Ferrand. Ce qui me semble assez lointain pour pas être trop gênant au quotidien. Je me dis, bon, très bien. Et là-dessus, le temps passe quand même avec tout ça, hein, parce qu'on a eu le temps de se raconter ça et d'autres choses. Et arrive genre 3h30. On était toujours au lit. Et là, elle regarde sa montre et elle me dit « Faut que j'aille chercher mes enfants à la sortie de l'école à 4h30. Viens avec moi. » Et là, bon, j'ai eu une espèce de sentiment un peu étrange de...
De bouffée d'angoisse, tu veux dire?
Ok, il y a un cap à franchir. Maintenant, suis-je en mesure de le franchir ou non? Je sais même pas en fait si j'ai cherché une excuse bidon, je crois que je lui ai dit que c'était juste prématuré entre nous, quoi. Enfin, quelque chose que je ferais volontiers si le lendemain on était encore ensemble. Et donc elle m'a regardé et elle a dit « Ah bon, d'accord, je vois. » Et elle m'a rappelé le lendemain, et 2-3 fois, et on s'est jamais revus en fait. On s'est appelé de temps en temps, on s'est écrit un peu. Ça fait semblant de croire un instant à un autre type de relation un peu échevelée. Elle ne m'aurait pas demandé de venir chercher ses enfants avec elle.
Au bout d'une nuit, elle te demande de chercher les enfants quand même.
Non mais attends, je suis un vrai mec bien aussi. Et ça, elle l'avait senti.
C'est bon.
Je me souviens encore des prénoms de ses enfants qui s'appelaient Paul et Martin.
Il m'a dit justement, écoutez... j'aime bien votre style, j'aime bien... Et puis déjà, on l'avait vu, non, c'était la première fois. Il m'a dit, je voudrais bien vous rencontrer, mais je vous dis tout de suite, je suis franc avec vous, j'ai une maîtresse. Alors j'ai dit, ça ne me gêne pas, ça, c'est vrai. J'avais dit, ça ne me gêne pas, vous la quitterez gentiment. Et j'ai eu la bonne idée, malheureuse d'ailleurs, d'acheter... J'avais acheté dans un magasin de luxe une boîte de chocolat pour lui offrir, pour la quitter. J'ai dit, vous offrez ça et puis vous la quittez. C'est ce qu'il a fait.
Moi, je me souvenais que c'était un sac, que tu lui avais acheté un sac.
Après,
pour la femme, comme cadeau de rupture.
Voilà, c'est ça. Oui, j'ai fait ça aussi. Les chocolats et les sacs, oui, c'est vrai. Et j'étais allée chez un... J'avais coûté... Vous payez cher, hein. Parce que j'aimais le luxe à l'époque. Je m'étais privée pour acheter ce petit sac.
Et, mais tu disais, il avait une maîtresse. C'est pareil, les mots ont changé de sens. C'était une fiancée, finalement. Il avait une amoureuse.
Il ne voulait pas l'épouser.
D'accord.
Non. C'était pas dans ce
parce
but.
Parce qu'une maîtresse, c'est pareil. Aujourd'hui, une maîtresse, oui, c'est l'adultère.
Ce
donc, c'était pas ça.
Non. Non, non, il était libre, il allait aussi bien avec d'autres filles que... Moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'il soit libre. Alors, c'était le cas, j'ai donné le chocolat et il était libre. Et je
donc,
lui ai dit,
même,
d'ailleurs...
C'est...
Hein,
c'est non, non, toi je qui as fait le premier pas, quand même. Donc, t'as un peu forcé le destin.
Oui, j'ai forcé le destin, c'est juste. Oui, oui.
Et ça aussi, c'était pas très courant à l'époque.
Pas du tout. Mais c'était moi.
Parce que finalement, dans votre couple, c'est plutôt lui qui était le jeune homme timide,
oui.
Et toi qui tenais la baraque.
Tout à fait. Oui, c'est tout à fait. Et ça a toujours été ça. Oui, mais on s'aimait beaucoup, follement même.
Et est-ce que tu peux nous redire aussi, parce que tu lui as pas dit rien que la vérité non plus quand tu l'as rencontré.
Ah, ça c'est vrai. mais c'est vrai. Non, c'est pas là. Il m'a dit, écoutez, moi j'aimerais bien vous présenter ma tante. Je vous emmène, c'est le lendemain ça. Parce que moi je voulais justement le revoir. Et quand il m'a dit, je peux vous revoir le lendemain, j'ai sauté de joie, je ne lui ai pas montré, mais j'étais très heureuse. Alors il m'a dit, je voudrais vous présenter ma tante, à ma tante et à ma sœur. Bon, c'était une bonne démarche. Moi j'étais ravie, je me suis dit, bon, ben, ça prend un bon chemin. Et alors, je suis allée chez la tante. Je ne sais pas si je raconte ça aussi. Hein.
Merci,
bon, elle était âgée. Je lui ai bien plu. J'ai bien remarqué son style. J'ai regardé si vraiment je lui plaisais ou pas. Mais elle était très maligne, très fine. Très, très fine. Elle voulait savoir ce que je faisais dans la vie et ce que faisait mon père. Ça, j'avais horreur qu'on me pose ces questions-là. Alors, je la voyais venir. Elle me dit, ah, mais vous êtes jolie, vous savez. Je les voyais venir. Alors elle se penche, elle me dit, vous avez une très jolie robe brodée, et ses mains, et ses faits mains, en plus elle s'y connaissait. Alors elle me regarde, elle soulève un peu ma jupe pour regarder la broderie. Mais c'était pas seulement pour regarder la broderie, parce qu'elle me pose la question en même temps, que fait votre père? Ça, je suis devenue folle de rage. Je ne l'ai pas montré, mais je lui ai dit, mon père, il est commerçant, un grand commerçant. Ça lui a plu?
Il y a un grand magasin,
voilà,
tu lui as dit.
Voilà, c'est ça. Un grand magasin. Alors elle me dit, ah, vous voyez, ça l'intéressait. Et puis après, en sortant, j'ai éclaté de rire de ma répartie.
Alors, mais bon, il n'avait pas du tout un grand magasin, ton père.
Mais pas du tout. Il était piqueur de tiges, j'étais loin de là. Il piquait les hauts de chaussures à la machine. Et il les donnait aux cordonniers qui les faisaient. Donc, il n'était même pas cordonnier. Piqueur de tige, ça s'appelait. Alors, je n'allais pas dire à cette bonne femme, mon père est piqueur de tige. Alors, j'ai menti. Et j'étais contente de ma supercherie.
Et tu as menti aussi à Jean, quand tu lui as dit que tu venais du Midi.
Et lui, après, il a menti aussi.
Qu'est-ce qu'il a dit?
Je ne me souviens plus, mais il m'avait dit aussi une blague. Parce que moi, il m'a demandé... Ah oui, tu as raison, j'avais oublié ce détail. C'était le premier soir, hein. D'où vous venez? Alors, il ne fallait pas dire, pour moi, hein, d'après mon raisonnement, je ne voulais pas dire que je venais d'Algérie. Parce que c'était la dot, c'était l'esprit mauvais, c'était... Alors, je ne voulais pas. Alors, je lui dis, non, je ne suis pas d'Algérie, je suis du Maroc. Le Maroc, c'était bien vu.
Mais non, tu t'as dit, je suis du Midi.
Du Midi, c'est vrai, tu as raison. Non, j'avais dit justement dans le Midi. Alors, D'ailleurs, il m'avait écrit une petite lettre après, mais très gentille, parce qu'on est restés très amoureux pendant très, très, très longtemps. J'ai des lettres d'amour comme ça, où il m'avait dit, en riant, il m'a dit, oui, vous êtes du midi, petite menteuse. Petite menteuse d'amour, quelque chose comme ça. Non, non, il est resté amoureux tout le temps.
Alors... Oui, alors, en fait, j'avais pensé à toi dès le début parce que je crois que une des premières phrases que tu m'as dites quand on s'est croisé un soir à une fête, c'est « Je suis amoureux ».
Oui, donc, effectivement, c'est peut-être un mot qui me définit bien, mais depuis assez peu. C'est-à-dire qu'effectivement, si on pouvait me demander ce que serait ma profession, amoureux, ça pourrait être bien. On arrive, ça se passait sur une péniche, donc à côté de la Bibliothèque nationale. Et tout de suite, je la vois, et tout de suite, il se passe quelque chose. Vraiment, j'arrive pas à décoller mes regards d'elle. Elle aussi me sourit timidement. Moi, je crois que j'ai pas mal bu pour me donner un peu d'assurance et de confiance. En tout cas, pour essayer du moins. À un moment donné, on se croise sur cette péniche et on échange quelques mots, très timide, les deux vraiment pas à l'aise du tout. Après on repart chacun de notre côté, la soirée se poursuit et je restais certainement avec l'espoir de pouvoir lui reparler. Et donc de fait, là j'étais assis sur la péniche, la péniche commençait à se vider, elle revient de fumer, elle me voit sur le banc, elle s'assoit à côté de moi et là je lui dis en fait très rapidement qu'elle me plaît énormément. Disons en plus que j'ai bu beaucoup de vodka, donc ça me permet de lui dire ça parce que je suis plutôt d'un naturel timide. On a échangé deux légers baisers discrets durant la soirée. J'ai fait ce que je n'avais jamais osé faire, je lui ai demandé son numéro de téléphone. Elle me l'a donné et c'était le bon. Et donc voilà, ça a en fait commencé comme ça, de façon très, très naturelle. Le lendemain, je l'ai rappelé. On s'est vu donc le jour d'après. Donc je l'ai rejoint chez elle pour prendre un café. Notre histoire en fait a commencé immédiatement. On ne s'est quasiment pas quitté pendant 24 heures. Et tout de suite, les choses ont été en fait ce qu'elles sont encore actuellement. C'est-à-dire très simple, très évidente, très belle. Chaque chose est finalement très belle. Chaque mouvement, chaque geste, chaque parole. Avec beaucoup d'humour, beaucoup de légèreté. Et une relation qui se passe pour l'essentiel dans le présent. Je pense qu'on est arrivé chacun avec un passé sans doute assez chargé, des blessures. Mais on n'en a pas parlé, on en a parlé beaucoup plus tard et on n'en parle quasiment pas. On s'appesantit absolument pas là-dessus. Voilà, ça fait 10 mois qu'on est ensemble et 10 mois où il n'y a pas l'ombre d'un souci.
Que vous êtes bien installé comme ça.
Oui, ça va.
Donc, au contraire, tout est juste magique, magnifique.
Oui, c'est le genre de phrase définitive dont il faut bien sûr se méfier, quoi. Maintenant, je pense que c'est quelque chose dont tout le monde est à peu près conscient, que c'est il y a un risque de repli sur soi dans le couple, de se fermer à du possible ou de.
Alors, vous voulez une
assez court en fait, ouais. Ouais, classique, court.
Vous venez avec moi, monsieur?
Absolument.
S'il vous plaît.
Donc en fait, un truc très simple, très court.
D'accord. Comme vous êtes coiffé, quoi.
Ouais, c'est ça, mais je sais pas. Mais... C'est en moins, quoi. Je m'en rends pas bien compte, toi, à peu près. Moi, je pense que c'est toujours difficile de parler d'une histoire en cours parce que par définition, enfin, justement, ça échappe à tout travail d'arraisonnement ou c'est pas quelque chose sur lequel on a forcément envie de se retourner puisqu'on est dedans. Donc, je pense que c'est toujours plus spontanément, plus aisément, facile de parler de choses qui ont déjà eu lieu ou dans lesquelles on peut. Sur lesquels on a un surplomb par définition. L'histoire d'amour, c'est l'histoire où on n'a pas de surplomb.
Quel
genre ? Il y a une raison à ça. Mais je pense que c'est clair, tu vois. Par définition, tu... Je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de... Enfin, sans en faire des tonnes et sans convoquer des grands noms, quoi. Mais il y a quelque chose qui échappe au langage là-dedans. Et c'est une part qu'on veut conserver hors langage presque. Il y a une belle chose de Deleuze qui dit à un moment, aujourd'hui on lui dit voilà, les gens parlent pas assez, etc. Il dit c'est tout l'inverse, dont les couples crèvent de se poser les questions, ça va, tu vas bien, comment tu te sens, t'es sûr, on en crève de ça, donc je pense que c'est les bulles de silence sont importantes, les bulles d'inconnu, les bulles d'inexplicable. Bah, c'est des choses qu'intuitivement on sait, on sent très bien, quoi. C'est vrai qu'on arrive avec toute notre armada pour cerner l'autre, pour le comprendre, pour l'assimiler à soi. Mais je pense qu'il y a deux, trois petites choses qu'on peut pratiquer comme ça, un peu bricoler un peu avec ça.
Par exemple
bah,
Est-ce que la longueur vous va? Je suis désolée.
Non, vous faites bien. Peut-être un peu plus court au-dessus, c'est ok, ouais.
D'accord, vous voulez coiffer, froisser après ou...
Oui, oui.
Parce qu'il
oui.
risque de rester un peu droit après.
Ah, il risque d'être un peu en brosse.
Oui, légèrement, bah. Mais c'est pas moche, parce que maintenant, on n'est pas forcément coiffé.
Bah alors un peu plus court, ouais, un tout petit peu, si c'est possible. Merci.
Comme ça, après, si vous voulez, vous pouvez coiffer comme ça, vers l'avant.
Oui, voilà, et super.
Vous restez très bien.
Merci. Moi, il y a un truc qui me terrifie chez les couples, je ne sais pas si tu as remarqué ça, c'est le... Enfin, chez les couples ou chez un des membres du couple, c'est l'utilisation du nous. Tu demandes à un garçon et une fille, bon, on peut se voir, on ne sait pas trop. Moi, je trouve ça terrifiant, on ne sait pas trop. Ou, ouais, on va venir. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de jeu. C'est la disparition du jeu, simplement. Là, je prends... Je réponds de façon négative, hein, mais... Oui, essayer de garder un jeu, déjà, c'est pas mal, quoi.
Je coupe les pattes
oui,
à quel niveau
là,
je...
là, bah, là, c'est bien.
Au niveau de l'oreille.
Ouais, bon, c'est ok. Je suis comme chacun d'entre nous, le plus menacé par ça aussi, je pense. Enfin, je parle pas du haut de ma montagne comme ça à tout strat, tu vois. Ce nous a quelque chose de très rassurant, très confortable, de très chaleureux. C'est pas... Forcément, hein, mais je dis tout ça parce que ce risque de repli sur soi et ce risque petit bourgeois, c'est un truc qui me traverse aussi comme un autre.
Donc toi, tu dirais que ton couple repose sur quoi?
Bah, sur cet inconnu qu'on garde l'un pour l'autre et sur cette solitude qu'on garde l'un vis-à-vis de l'autre. Mais c'est un truc de Rilke qui est très beau, qui dit qu'un couple, c'est... Quoi ? On peut plus citer Rilke à la radio. Qui dit qu'un couple, c'est deux solitudes qui s'inclinent l'une devant l'autre.
Absolument.
Oh, ouais.
Dans l'histoire d'amour, il y a un moment où ça prend. Est-ce que ce moment est identifiable? Est-ce qu'on le sent? Est-ce qu'il y a des signes?
Un peu de cire, vous ne voulez
pas? Non.
Eh bien, écoute, oui, je pense qu'il y a un certain nombre de signes. On t'accorde une confiance et je pense que la personne t'a dit à un moment donné « je t'aime ». Et donc, cette seule phrase, cette seule proposition te permet d'avoir une assise où, du coup, tu as ta confiance et tu dis « ah, ça prend, la gelée est en train de se construire autour du gigot ». Donc, bon, oui, je pense qu'effectivement, c'est à partir de ce moment-là où tu peux te dire que tu as une assise et tu peux faire confiance à cette personne. Elle t'a fait suffisamment de gestes ou de promesses qui font que tu as l'impression que tu peux t'engager dans quelque chose. Faut tester en fait, faut éprouver. Tu sais, c'est comme en fait ces meubles Ikea où tu vois des machines essayer de défoncer le meuble et ça te prouve qu'en fait ça tient bien, le bois il est solide. Tu sais, c'est dans les pubs, les promos Ikea.
Que dire de tous ces gens à qui ça arrache la gueule de dire je t'aime?
Est-ce que ça arrache la gueule de dire je t'aime? Oui, si, ça arrache pas mal la gueule à un certain nombre de gens, surtout les mecs, je pense. Les nanas ont plus tendance à le dire. Bon, alors évidemment, là, je rentre dans des grosses généralisations et il faudrait me couper. Mais que dire de ces personnes qui ne veulent pas dire je t'aime? Bah, qu'elles aillent mourir ailleurs, quoi. Je veux dire. C'est bon, c'est pas compliqué d'être généreux à un moment donné. Faut savoir lâcher les sentiments. Quand tu les ressens, ça sert à quoi de retenir, faire de la rétention? Tu vas juste t'engorger toi-même et exploser comme une vieille patate. Enfin, je sais pas, tu vois.
Ça se voyait quand même qu'on s'aimait, donc.
À quoi ça se voyait?
Ben, le regard. Je me rappelle qu'il y avait une dame à Cuba, à l'hôtel, qui avait dit... dit où ça sent, c'est pour la vie. Puis moi qui étais là, qui disais, ouais, je sais pas, là. Et dans ma tête, je me disais, je sais pas, je suis du Québec. Bon, évidemment, j'ai pas dit à Mathieu, mais bon. Mon copain, mais... Donc, c'était pas sûr. Et finalement, ben, je suis en France, donc c'est sûr.
Donc, t'as trouvé un nouveau travail. C'était quand même un changement de vie radical.
Bon, je reste toujours dans la même branche de travail, mais...
C'est quoi ton travail exactement?
Je travaille dans la santé. Donc, je suis toujours dans la même branche, mais j'ai pas le même poste. Hein. J'ai un poste inférieur à ce que j'avais. Donc, pour moi, c'est vrai que c'est difficile au niveau financier. C'était quand même un travail qui a beaucoup de responsabilités. Et donc, arriver ici, de retomber en bas de l'échelle...
Pourquoi tu es retombée en bas de l'échelle, en fait?
Parce que l'équivalence des diplômes se fait pas. Faudrait que je retourne à l'école pour faire l'équivalence des diplômes.
C'est donc c'était quand même un vrai sacrifice de venir ici aussi. Il y avait une part quand même
Par rapport au métier, par rapport au pays, par rapport à la famille. Donc c'est... Je pense que Mathieu, il m'arrête pas de me le dire, il est très reconnaissant de ce que j'ai pu faire. Bon. Après... Il a été très compréhensif aussi. Donc, alors, chacun fait des compromis dans la relation, disons.
Et comment tu vois l'avenir?
Ben là, pour l'instant, on la voit en grand. Hein, nouvel appartement avec 3 chambres. Disons qu'on espère que les enfants vont venir bientôt. et qu'on espère qu'on va finir nos jours ensemble. Comme il me dit toujours, hein, il espère me voir une grand-mère et lui une grand-père. Donc, il travaille dans la mercerie.
Et ça ressemble à quoi son magasin?
Y a des boutons partout. Il y a des boutons partout. C'est une vie de boutons. Vois plutôt une boulonnaise, une fille de Besançon, mon vieux là. La française, c'est vraiment le pompon. Pour ce qui est d'une bonne baise, nous Français, on est les champions. Champions. On est les champions.
Voilà. On a peut-être 20 ans de mariage. Plus,
tu
plus.
Tu te souviens de l'année de votre mariage?
Ah oui, en 50.
50, d'accord. Et... Jean, il est mort en 96, 97.
Oui, c'est ça.
96.
Oui.
Donc, 46 ans quand même.
Ben voilà, 46 ans. Tu vois, je te disais.
Oui, ce que j'aimerais que tu nous racontes aussi, c'est que tu dis, on a été main dans la main toute notre vie ensemble.
Oui.
Et j'aimerais bien que tu nous re-racontes la première fois que Jean t'a dit qu'il partait en déplacement et qu'il allait dormir dehors avec son patron, Monsieur le marié.
Alors là, c'est pas beau à voir. Comme je ne m'étais jamais séparée de mon mari, mais jamais. Il allait faire des courses, je le suivais, la main dans la main, mais partout, je le suivais. D'ailleurs, ça étonnait tout le monde. On était tout le temps en train de s'embrasser, la main dans la main, ça étonnait vraiment tout le monde. Mais moi, c'était vraiment d'instinct.
C'était
j'aimais beaucoup. Non, c'était d'instinct. C'est pas calculé. C'était moi, je l'adorais. Et l'adorer, c'était l'embrasser, le toucher, le regarder. C'était tout le temps. J'étais en admiration devant lui. Et puis lui, en admiration devant moi. Alors ça pouvait bien aller. Alors nous sommes allés chez sa sœur parce qu'on n'avait pas trouvé d'hôtel, on n'avait pas d'argent.
Non, c'est pas ça l'histoire.
Allez, vas-y.
C'est l'histoire où donc le premier déplacement où en fait Jean. T'as dit, bon, bah là, ce week-end, je vais pas pouvoir dormir à la maison parce que je vais avec le marié montrer des collections.
C'est ça. Alors là, justement, après ce mauvais début, on s'est dit, qu'est-ce que tu peux faire? Et il m'a dit, écoute, pour débuter, je ne ferai pas ça. Je n'aime pas ce métier. Je ne veux pas manger. J'ai dit, non, tu vas pas être à vendre de la maroquinerie. Non, je ne veux pas que tu fasses ça. Tu mérites mieux que ça. Alors il m'a dit oui, mais on n'a pas d'argent. Pour le début, ça ne fait rien. Je vais chercher quelque chose. Et on a mis une annonce d'accord tous les deux pour trouver un représentant en maroquinerie. Et c'est un monsieur de Bretagne qui est venu, qui était vraiment, comment je vais te dire, qui commandait, mm-hmm. qui est arrivé, très sûr de lui, qui dit, moi ça ne me plaisait pas beaucoup ce genre, mais on n'avait pas le choix. Alors il lui a dit, vous allez venir en Bretagne, et je vais vous montrer la collection. Il n'y avait pas la collection encore, il avait deux sacs qu'il avait amenés. Et puis voilà, est-ce que vous voulez être représentant? Alors moi je lui fais signe que oui, représentant c'est bien, ça sonne bien, représentant. Mais là il me dit, alors il lui a dit, mais madame, parce qu'il voyait qu'on s'embrassait très souvent, je ne lui lâchais pas la main. Alors il a dit, mais madame, là il va falloir vous séparer. J'ai dit, comment me séparer? On vient de se marier. Alors il a dit, non, si les représentants, vous pensez bien qu'il ne va pas rentrer à la maison manger? Ah oui, moi il faut qu'il rentre à manger dans la maison. Alors, bon, alors j'ai, comme tel que j'ai dit, non, il faut qu'il rentre manger à la maison, et après il recommence. Alors il m'a dit, non, ça ne va pas. Je lui ai dit, alors on peut s'arranger. S'il vient, parce qu'il lui a dit, venez pour 8 jours, je vous montrerai la maroquinerie de Bretagne, venez 8 jours avec moi, c'est ça, venez 8 jours avec moi. Alors j'ai dit, mais vous voyez que vous commencez, je ne veux pas me séparer. Bon, alors on va faire autre chose. Il a dit, parce que vous savez, c'est vous, je vois que vous êtes un bon couple. Il voyait qu'on se bécotait, ça l'intéressait, car on était sérieux. Il voulait quelqu'un de très sérieux. Alors il a dit, je vois que vous êtes un couple très sérieux. Il vient avec moi, je l'emmène. Il continue, je l'emmène avec moi en Bretagne et vous venez après. Non, je viens avec vous en Bretagne. Alors il m'a dit, bon, mais je vous avertis, vous venez. Vous avez des enfants, 3 enfants. Alors vous n'emmenez pas. Ah si, j'emmène mes enfants. Il devenait fou. Et puis il a beaucoup aimé Jean. Il a eu un bon contact. Et là, on n'est pas resté 8 jours, mais je suis restée un mois chez lui, logé. Ils m'ont pris une chambre à l'hôtel, mais j'allais avec eux. J'avais sympathisé avec et les enfants et sa femme, et on est devenus les plus grands amis du monde.
Qu'est-ce que ce serait ta plus belle histoire d'amour ratée?
La plus belle histoire d'amour ratée. Mais je sais pas. Ouais, attends, mais je sais pas. Bah, c'est par exemple, je pense la plus belle histoire d'amour ratée, c'est avec un homme qui était marié et effectivement, il pouvait rien se passer parce que il est resté avec sa femme et que moi, j'étais très amoureuse de ce mec-là et il pouvait rien faire. Et or, il était aussi amoureux de moi, mais bon, voilà, ayant des enfants, ayant une femme et n'habitant pas le même pays, je pense que ça devenait vraiment compliqué. Donc c'était une belle histoire d'amour parce que c'est un mec généreux et que il m'a apporté une tonne de choses que j'ai pas eu avec d'autres personnes. Et en même temps, on a conservé ce qui était beau dans les moments qu'on a passés ensemble. Et je pense que effectivement, c'est une belle histoire d'amour ratée parce que là. Pas la même. On ne s'est pas rencontré au bon moment, en fait. Encore une fois, une histoire de temps, une histoire de timing. Voilà. Les cieux n'étaient pas avec nous. Donc, effectivement, l'histoire ne s'est pas réalisée. On n'a fait que frotter 2 rouages à un moment donné dans la grosse machine de l'amour. et voilà, ça n'a pas pu s'imbriquer. Mais bon, ça va, ça vient. Le tourbillon de la vie, quoi. Tu vois. Donc, effectivement, on se reverra peut-être, on ne se reverra pas. Qui sait?
Qu'est-ce que ce serait les signes de la fin, ce que tu dis dans ton texte quand tu dis ça sent le sapin?
Ça sent le sapin, on ne se parle plus, on ne se sourit plus trop et on entend un couteau et fourchette sur l'assiette résonner pendant qu'on dîne. Et là, ça devient glauque et là, on se dit oulala. Non, ça passe aussi par un jeu de regard ou l'étincelle qui faisait que tout était vibrant et d'un coup, tu as l'impression que le monde s'allume autour de toi. D'un coup, là, tout est éteint, mort et un peu brisé, quoi, si tu veux. On n'arrive plus à communiquer. Je pense que ça, c'est un peu les signes de la fin. On n'a plus forcément de désir pour l'autre. Bon, voilà, ça devient une espèce d'automatisme. Effectivement, on a de moins en moins envie de partager la vie de la personne. On se retire, on préfère faire des plans avec ses copines que de rester avec son mec parce que voilà, il nous gonfle. Bon, moi ça m'est pas arrivé depuis longtemps, mais effectivement, je pense que ça passe par ça, tu vois, par un désintéressement.
Qu'est-ce que tu penses de ce grand paradoxe des amoureux qui pourrait s'exprimer comme ça? Je ne t'ai jamais autant aimé que depuis que tu m'as largué.
C'est très ennuyeux, quoi. Je pense que dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait avec ça, effectivement, un paradoxe comme ça, c'est le sabotage amoureux, quoi. C'est-à-dire que finalement, on aime ce qu'on aime que lorsque c'est perdu, finalement. Enfin, tu vois, il y a l'idée que le vrai amour, c'est l'amour perdu. Donc, je pense que c'est encore une espèce de reliquat romantique à la con, quoi. Mais c'est pénible. Mais effectivement, l'amour s'exaspère du fait de l'absence de l'autre. Donc, de fait, on aime bien aimer les fantômes.
J'ai vécu en Algérie, à Intemouchen, près d'Oran, chez mes parents. Nous étions 3 enfants. Mes parents nous ont élevés avec beaucoup d'amour. Je travaillais à la commune mixte chez un administrateur. Un jour, j'ai décidé d'aller à Paris, que je ne connaissais pas, pour mes vacances, chez une tante qui voulait bien m'héberger. J'ai pu réaliser mon projet. J'ai pris le bateau et l'émerveillement a commencé. Je suis allée un soir au Lido. J'avais prévu un programme de sortie et avais choisi une place près de l'entrée. Un jour, un jeune homme m'a remarqué. J'ai dû le regarder avec insistance et m'a demandé à danser. Il était très beau, grand, galant. Je souhaitais qu'il renouvelle chaque fois sa démarche. Je peux dire que c'était le coup de foudre. Il ne m'a pas quitté et voulait tout connaître de ma vie. À 19h, pour prolonger la soirée, il me pose la question. « Voulez-vous prendre un porte-flip ?» Je me gardais bien de lui dire que j'ignorais ce qu'était ce porte-flip. Je pensais secrètement ce que je pouvais bien faire pour le retenir. Nous échangeions nos prénoms. Jean, Rosie. Il m'a raccompagnée chez ma tante, qui l'a invitée à dîner. J'étais très heureuse de passer encore la soirée avec lui. Il m'a revue le lendemain et m'a présentée à sa sœur Louisette et à sa tante, à qui j'avais plus de suite. J'ai prolongé de 4 jours mon séjour et suis retournée en Algérie avec la ferme intention de le revoir. Nous nous téléphonions matin et soir. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Cela prenait une telle ampleur que je décidais d'aller à Paris pour une semaine. J'ai vécu un rêve. Je l'aimais beaucoup. C'était une personne très sensible qui a souffert de la déportation de ses parents. Mais il ne m'en avait jamais parlé et n'a jamais pu le faire. À ma grande joie, je ne m'y attendais pas, Jean me dit, nous ne pouvons pas attendre, écrire ne suffit plus, j'aimerais qu'on se marie. Ma joie était indicible. L'administrateur où je travaillais a tout organisé. C'est un souvenir inoubliable, danse, voiture, c'était vraiment un rêve. J'ai gardé un souvenir magnifique, nous étions toujours main dans la main, nous embrassant souvent. Je lui disais chaque fois, comme tu es beau et comme je t'aime. Il m'offrait chaque fois des fleurs. Malheureusement, comme il fumait beaucoup, il est tombé malade, opéré d'un poumon à l'hôpital. On m'a annoncé, malgré tous les soins, qu'il n'aurait plus longtemps à vivre. Je refusais de le laisser à l'hôpital et le ramener chez nous. Il pouvait encore bien s'exprimer et a demandé de voir ses enfants. Il avait gardé toute sa lucidité. Mes enfants étaient très attachés à leur père. C'est la première fois qu'il a parlé de ses parents en disant « Je vais les rejoindre » et ajouter « Occupez-vous. » Je fais plus. « Occupez-vous bien de votre mère, entourez-la, aidez-la, aimez-la comme je l'ai aimée. » C'est ce qu'ils font. Et s'adressant à moi, je t'aime, je t'aime, je t'aime, et il a fermé ses yeux. C'est tout.
C'était Sur les docks, l'amour Ikea, avec Rosie, Aurélie, Mathieu, Alan, Alban et Julia. Coordination Laurine Planchet, Christine Gage. Mixage Julien Douminc, réalisation Guillaume Baldi, une émission proposée par Aurélie Dion.
Rapproche-toi de moi.
L'heure du documentaire, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, liens et podcast pour le grand jour, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook à la page France Culture Documentaire. Et demain, suite de l'heure du documentaire avec une histoire particulière à l'assaut du génie de la Bastille.